purs ont une manière peu commune de parler du mal. La Bible en elle-même se fait même très originale à ce sujet, ce qui n'est pas d'ailleurs parfois sans poser de difficultés. J'ai essayé de vous le montrer. Aussi, je vous propose de cheminer ensemble et d'essayer de répondre à cette question que vous voyez là. Mais rappelons-nous tout d'abord que dans notre foi, nous croyons que les Écritures ne comportent ni erreur ni contradiction dans la révélation qu'elles nous offrent. Autrement dit, si nous voyons des passages qui suggèrent d'un côté que, entre guillemets, Dieu est l'auteur du mal, et de l'autre, que Dieu ne peut surtout pas l'être, il nous faut nous creuser la tête. On ne peut pas réagir, on l'avait déjà évoqué, mais dire « la Bible se contredit », c'est impossible. Et si la Bible, deux choses qui semblent en contradiction, il va falloir ne pas s'arrêter à cette vraisemblable contradiction. Et de voir donc si la Bible n'use pas de moyens de langage qui parfois nous échappent un peu et que l'on ne doit surtout pas prendre trop littéralement ou trop naïvement pour en tirer une conclusion hâtive. Prenons déjà le cas un peu de l'histoire de Saül que nous avons vue. Ce court récit de l'histoire de Saül. Il est dit, je vous remontre deux fois le même verset dans deux traductions différentes, vous verrez que ça ne change pas grand-chose, mais il est dit, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. Alors on n'est pas à la Pentecôte, hein, et après, ça n'est pas tout à fait dans la même notion. L'Esprit ici qui est donné à Saül, c'était pour lui conférer la royauté, pour l'aider à être roi, pas plus. Il n'était pas né de nouveau, si vous préférez. Même si je vous le dis là, c'est peut-être un peu court et rapide, mais prenez-le comme cela. Donc l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. C'est quand même bizarre ça. C'est pas forcément le verset qu'on aimerait trouver dans la Bible, premièrement. Si ça commençait comme ça, ce serait un peu bizarre. Bon. Autre version, mais très proche, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, tandis qu'un mauvais esprit, envoyé par l'Éternel, se mit à le tourmenter. Je préfère cette traduction que je trouve meilleure. C'est la semeur, on n'y peut rien. Que soulignent nos deux récits? Est-ce qu'ils suggèrent que Dieu négocie ici avec le mal, avec Satan? Et par exemple, à propos du récit de Job, on l'entend peut-être même plus directement, a priori, c'est que l'accusateur est là, siège au conseil de l'Éternel avec les autres anges, et puis ça parlemente, ça discute, et puis vient tout d'un coup, on évoque Job, et puis... Ah ben lui, tu le vois, il m'est fidèle. Non, non. Tu vas voir, si on touche à tout ça, tu vas voir à quel point c'est pipeau. Il t'est fidèle juste parce que toi, tu lui as tout donné. C'est un peu comme un enfant qu'on a déjà bien gâté. Ben, en général, il va être encore poli parce qu'il attend plus. Enfin, j'exagère. Hein. Ça, c'est nos problèmes à nous. Mais est-ce que ces deux récits, et notamment aussi celui de Job, suggèrent que Dieu négocie avec le mal et Satan et veut que Job ou Satan souffrent au point d'être tenté de commettre le mal? Est-ce que, très simplement, Dieu négocie parfois avec le mal? Est-ce qu'il compose avec lui? Est-ce qu'il dit à un esprit mauvais, va sur Saül, tourmente-le un petit peu, j'aimerais voir vraiment le voir tourmenté, ou Job, vas-y, non mais pourris-lui la vie, ça lui fera du bien après tout, il en a besoin encore. Enfin, j'exagère, hein. C'est très mal dit, mais volontairement. Mais si nous venons à répondre oui à cela, oui, Dieu compose avec le mal. Il nous faudrait alors conclure que Dieu ferait des compromis avec le mal. De temps à autre, ne serait-ce que de temps à autre. Du moins quand ça l'arrange ou quand il en aurait besoin. Si je peux m'exprimer ainsi. Et je ne suis pas sûr qu'il faille bien s'exprimer comme cela. Mais alors, si nous venions à conclure cela, oui, Dieu viendrait à parfois composer, à se compromettre avec le mal. Cela poserait alors une énorme difficulté, car les Écritures soutiennent de très nombreuses fois qu'il n'y a aucune trace de mal en Dieu. Donc, en prenant une lecture très naïve des deux récits de tout à l'heure, et de dire oui à cela, pose problème, parce que tout à côté, la Bible n'arrête pas de répéter, de redire à quel point Dieu n'a aucune trace de mal en lui. Prenons plusieurs versets qui le disent, on ne peut pas juste le citer sans l'appuyer par au moins quelques textes. Mais 1 Jean, Chapitre 1, verset 5, qui dit « Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. » Premier verset, en tout cas un parmi tant. Prenons-en un autre, Jacques. Premier chapitre, verset 17. « Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père des Lumières. » On retrouve des expressions synonymes. Hein. « Et en qui, ça je l'avais déjà utilisé il n'y a pas si longtemps, et en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. » Ça suggère la même chose, mais dit dans d'autres mots. Alors là, nous étions plutôt dans le Nouveau Testament, mais prenons l'Ancien Testament pour voir si par hasard, il reste aussi dans cette même manière de dire les choses. Habacuc, pas forcément le livre biblique qu'on lit le plus souvent, mais très important. Habacuc, chapitre 1, verset 13, tout début en tout cas, il dit « Tes yeux sont bien trop purs. » J'aime beaucoup ce que dit Habacuc ici. « Sont bien trop purs pour supporter la vue du mal. » Tu ne peux accepter de voir des méfaits se commettre. Le Dieu de justice ici. Le Dieu qui exècre le mal. Bon, et nous arrêtons pas là. Prenons aussi, pour avoir un peu une forme d'équilibre, un deuxième passage, toujours dans l'Ancien Testament, Deutéronome, chapitre 32, verset 4. Il est comme un rocher, ses œuvres sont parfaites. Tout ce qu'il fait est juste. Bon. Il est un Dieu fidèle qui ne commet pas d'injustice. C'est un Dieu juste et droit. Voilà plusieurs manières, on pourrait aller en chercher plein, hein. La liste pourrait être très longue, et je serai là encore jusqu'à midi, et puis on commencerait à poursuivre le message après. Mais chacun de ces auteurs bibliques assène la même vérité. Il n'y a pas de trace de mal en Dieu. En effet, cette affirmation est bien présente et attestée dans toutes les Écritures, au point que l'on peut en parler comme d'une affirmation importante, d'un fondement de notre foi. Et nous pouvons le résumer ainsi, la première phrase là qui apparaît là, Dieu est bon. Dieu est même plus que bon, il est absolument bon, parfaitement bon. Ben, vous mettez tous les superlatifs, ça marche. Hors de question de rediscuter de cela, point. J'exagère un peu, mais c'est la vérité. On ne peut lui attribuer donc, pour le dire autrement, la moindre complicité avec le mal. Ou si vous le préférez, une autre manière de le dire, peut-être un peu plus étonnante, mais on ne peut enténébrer Dieu, on ne peut imaginer que Dieu compose avec les ténèbres. Non, justement, on entendait chez Jean et Jacques l'expression « Dieu de lumière » ou « Dieu Père des lumières », bref. Petite anecdote quand même. Cette affirmation biblique, importante, fondamentale, « Dieu est bon, parfaitement bon », est devenue, pour certains aujourd'hui, une forme de cheval de bataille. C'est sur ce point-là qu'ils viennent se battre. Et notamment, ce sont les athéistes d'aujourd'hui, ceux qui nient toute existence d'un Dieu, de Dieu. Très grossièrement, pour dépeindre un peu leur logique à ces athéistes, ils défendent qu'en raison de l'existence de mal, le mal existe. Ça, on le constate tous. Humainement, c'est tout à fait évident. Parce que le mal existe, le Dieu de notre foi ne peut exister. Ils nous connaissent un petit peu, ils regardent un peu à notre foi et ils disent « Mais si le mal existe, puisque la Bible n'explique pas, votre Dieu ne peut pas exister. » Ça ne fonctionne pas. Parce que pour eux, si Dieu existe, comme il a tout créé, il doit avoir créé le mal. Autrement dit, il aurait voulu le mal. Ça, c'est leur logique. Hein. Et c'est pas stupide dans le raisonnement, dans l'idée en tout cas. Mais pour eux, la perspective biblique est impensable, non défendable. Car elle est totalement illogique, du moins dans une logique humaine. Or, laissons-leur là, cette logique-là, mais c'est là-dessus qu'ils vont vous attaquer, c'est là-dessus qu'ils attaquent notre foi, parce que pour eux c'est impensable, ça n'est pas résolvable. Il y a quelque chose qui ne tient pas. Et c'est vrai que ça n'est peut-être pas facile pour nous aussi parfois de l'expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Et vous savez, l'une des critiques les plus faciles que l'on entend autour de nous, ils disent « Voyez une catastrophe dans le monde, de ci, de là, un séisme, peu importe. Si Dieu existait vraiment, comment permet-il cela ?» C'est très souvent la première attaque que vous entendez à propos du christianisme, à propos même de Dieu plus encore. C'est une critique très facile d'ailleurs, mais qui dit parfois la méconnaissance totale de Dieu. Et je ne sais pas si on est tous à l'aise pour répondre à quelqu'un qui vous dit cela à un moment donné. Ce n'est pas forcément facile d'ailleurs. Bon. Mais plus que cette anecdote de ce danger pour nous, non, plus que cette anecdote, pardon, le danger pour nous serait d'être tenté à faible dose par une autre logique. Ce qu'on appelle la pensée dualiste. Alors, excusez-moi les quelques mots un peu compliqués, mais je ne vais pas vous les laisser sans explication. Est-ce que vous savez ce que c'est un peu le dualisme? On entend deux, bon, il y a deux trucs, c'est sûr. Alors, je vous en dis un petit peu plus. Vous allez voir que parfois, sans y nous en rendre compte, on joue de cela un petit peu. On peut en tout cas, on serait tenté. Le dualisme est une pensée courante. Et cette pensée, soutient l'idée forte que le mal et le bien, l'un et l'autre, sont deux principes qui s'équilibrent mutuellement. Autrement dit, que le bien et le mal doivent exister. L'un ne peut exister sans l'autre. On ne peut pas parler de bien s'il n'y a pas de mal. Vous voyez un peu l'idée. C'est quelque chose d'assez courant, en fait. Et il y a, par exemple, beaucoup de cultures, de philosophies, notamment en Orient, qui ont intégré pleinement cette pensée-là. La plupart des religions orientales, et quand je dis orientales, je pense vraiment vers l'Asie, hein. Le taoïsme et tout ça, là, jouent de cela. Enfin, s'appuient même sur cette logique, sur cette manière de penser. Autrement dit, que le bien et le mal doivent exister, l'un ne peut exister sans l'autre. Voilà un petit peu cette pensée-là. Et appliquer ce type de pensée, parce qu'on peut y arriver, malheureusement, à la foi chrétienne pose un grand problème. Car nous sommes alors tentés d'inviter l'idée même que le mal serait, à petite dose, homéopathique même si vous préférez, voulu de Dieu. Dans la manière dont il dirige aujourd'hui, dont il est souverain sur ce monde-là. Alors c'est vrai que c'est ténu hein, parfois, parce qu'on va parler de permettre quelque chose, mais qu'il ne le veut pas. Et pour nous, c'est difficile de bien cerner cela. On manque parfois de discernement, de sagesse. Nous ne sommes pas Dieu. Mais, par exemple, une illustration de cette pensée dualiste qui parfois s'insinue un peu dans notre manière de comprendre le monde, de regarder au mal et de se dire « Mais Dieu, où es-tu ?» Un éminent et célèbre théologien protestant du siècle dernier, Paul Ricoeur. Je ne sais pas si ça vous parle un peu. Peut-être pas à grand monde. Notre cher président a appris un peu à ses côtés, apparemment. Pendant le temps des élections, on l'a entendu citer, ce cher Paul Ricoeur, à cause de notre président. Mais Paul Ricoeur, bien que lui, dans sa foi, avait souligné, je vais utiliser un grand mot, mais il faut rendre à Paul Ricoeur ce qu'il a dit, a souligné la disjonction du mal et de l'être. Dans le récit de la Genèse, disait aussi que l'idée d'un Dieu méchant est un mythe invincible, son regard, et que la Bible, alors il a le droit de dire ça, hein, que l'idée d'un Dieu méchant est un mythe invincible, là il critique l'humanité hein, d'une certaine manière, mais il dit que la Bible garde des restes de cette idée du mythe tragique. Autrement dit, pour lui, la Bible garde en notion l'idée que Dieu ponctue un petit peu avec le mal. En tout cas, que les auteurs ont laissé des traces de cela, n'auraient pas dit autre chose que cela en certains endroits de la Bible. Et là, moi, ça me choque. Il croyait voir, effectivement, notamment avec le serpent dans la Genèse, qui fait partie de la création de Dieu, qu'il serait la manifestation de cette pensée invincible. Dieu est méchant. Il a voulu le serpent, il a laissé le serpent aller tenter, etc. Il a voulu que, presque, j'exagère, je ne dis pas que Paul Ricoeur va jusqu'à dire cela, mais que le mal devait entrer dans la création. Là, je vais trop loin même, peut-être. Mais, pour résumer Paul Ricoeur, il n'imagine pas Dieu comme étant l'auteur du mal. Il sépare, mais il souligne que les auteurs bibliques évoqueraient tout de même cela à leur manière. Et là, ça pose problème, parce qu'on n'est plus tout à fait dans ce qu'on dit à propos de la Bible, qu'elle n'est plus inspirée. Si Dieu fait quelque chose, mais que ses auteurs sont un peu libres de raconter n'importe quoi, dans notre foi, ça pose un souci. Bon, Paul Ricoeur n'est peut-être pas tout à fait ce qu'on appelle un protestant évangélique. Il n'a jamais été d'ailleurs, même s'il a dit des choses intéressantes. Bon, j'espère ne pas vous avoir trop perdu en parlant de ce personnage qui a dit beaucoup de choses à propos de notre foi tout de même. Or, je vous montrerai parfois comment on arrive à insinuer, à distiller une pensée qui peut amener à voir les choses avec erreur. C'est là commencer à distiller l'idée d'un Dieu qui s'acoquine avec le mal. Je préfère ce mot-là. Je le trouve plus mignon, même s'il est déjà tordu. Voir d'un Dieu qui veut ou désire le mal, pour être plus direct, plus cru. Mais il n'en est rien. Car si les Écritures sont bel et bien inspirées, il est tout à fait possible et sage de dire que Dieu, par son esprit, a permis à ses auteurs de jouer de nuances, de jouer de tournures de langage, comme dans notre récit de Saül, où il dit que Dieu envoya un mauvais esprit à Saül. Il n'a pas fait une tape dans le dos hein, de ses démons en disant « Allez, file, maintenant, va aller, va. » Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça, ce serait le prendre très à la lettre et de ne pas, quelque part, rendre compte de tout ce que la Bible dit à propos de Dieu, dans ce qu'il est, dans la manière dont il gouverne et agit. Aussi, il nous faut affirmer avec énergie que la Bible ne soutient aucun soupçon d'idée dualiste. Dieu, parfois, voudrait le mal, que le mal serait un bien nécessaire. Que le mal permettrait de mettre en contraste le bien, et puis le bien serait alors plus en vue. Bon, j'exagère un peu, mais non. Clairement, non. Le mal n'est pas une nécessité dans la perspective biblique. Et là, je crois que Paul Ricoeur s'est lourdement planté. Bon, on fait tous des erreurs. Chacun a le droit aux siennes, mais celle-là est un peu lourde de sens quand même. Mais revenons à notre cher Saül à nouveau encore. Et demandons-nous, cette fois-ci, j'espère que je suis sur la bonne, puisque Dieu, c'est ça, envoie, je reprends le texte, hein, le verset, puisque Dieu envoie des esprits mauvais à Saül, peut-il être l'auteur du mal? Je crois que, arrivé à ce stade, ce que j'essaye de vous partager, il nous faut mettre en évidence une chose importante à propos de ce récit. Je reprends juste le court récit de Saül. Ce récit souligne une chose, plus que tout, la totale souveraineté de Dieu. Dieu est souverain, il l'est et le demeure, y compris sur le mal. Il est souverain sur le mal qui déferle aujourd'hui encore dans ce monde et qui s'attaque aux hommes et aux femmes de ce monde. Être souverain ne veut pas dire vouloir. Être souverain dit permettre. Parfois, il permet, mais il ne le veut pas. Ce qui est très différent. Je vais essayer de faire une petite image, elle ne va pas forcément être juste, pleinement juste, on n'arrive jamais à trouver des images parfaitement justes à propos de Dieu, mais vous souhaitez, pour ceux qui ont des enfants, le bien de votre enfant. Vous souhaitez par exemple que quand il traverse, il regarde bien, alors je ne sais plus dans quel sens d'ailleurs, c'est quand je suis en situation, c'est à gauche d'abord, puis à droite. Vous me corrigez, hein, pour les parents qui sont un peu plus vigilants que moi peut-être. Vous souhaitez ça pour votre enfant. Mais à un moment donné, quand il sera un peu plus mature, vous allez lui faire confiance et puis vous le laisserez traverser seul. Et vous allez lui permettre de traverser seul. Rien ne dit qu'il ne va pas faire une bêtise ce jour-là. Et c'est ça qui nous fait peur. Alors, attention, je ne dis pas que l'enfant est un démon, je ne pousse pas l'analogie jusque-là, mais on est un peu dans cette tension-là. Dieu gouverne à toute chose, Dieu dit ce qui est bon. Dieu permet aussi à un moment donné. Alors, même si, voilà, mon image est imparfaite, hein, il n'est pas une question d'éducation des démons, et puis à un moment, il leur fait confiance. Non, rien à voir. Vous n'allez pas jusque-là. Mais je reviens à ce que je disais. Car si le mal qui s'abat, dans notre récit du roi Saül, si le mal qui s'abat sur le roi Saül, cet esprit mauvais qui s'en prend à lui, c'est un démon, hein, reste limité dans ses agissements, comme sous contrôle. C'est ça que souligne le récit. Non pas que Dieu dit au démon, vas-y, fais-en ce que tu veux. Il permet, mais il limite. Et on l'entend davantage d'ailleurs chez Job. Quand l'accusateur vient quelque part douter, de qui doute d'ailleurs l'accusateur? Qui affirme que Job est un homme juste? Je vous pose la question très simplement. Vous allez voir en fait qu'on a déjà la solution dès le début. Hein. Dieu dit de Job que Job est juste et droit. Si Dieu le dit, qui peut aller contre cette vérité-là? L'accusateur, lui, il doute de Dieu. On l'entend déjà, même. Non, mais laisse-moi faire un peu, tu verras que... Dieu, il est... Enfin, je vais utiliser une expression que parfois nous entendons pour nous, mais pour nous, elle est malheureuse, parfois. Mais chez Dieu, il est droit dans ses bottes. Il n'a aucun doute, même si pour Job, ça va être un long chemin. Mais l'accusateur doute de Dieu, doute de Job. Parce que lui est déjà corrompu. Il ne va plus voir la vérité. Et puis il n'est pas Dieu lui-même, même s'il est très malin. Mais nous voyons dans ce début du récit de Job que Dieu va poser une limite. Il permet que Job soit éprouvé, mais il pose une limite. Il est bien dit, à un moment donné, juste vers la fin, c'était le dernier verset que nous avons lu, tous ses biens sont en ton pouvoir, donc ses richesses vont disparaître, ainsi que les siens. Malheureusement, il va perdre les siens, sauf son épouse, mais qui va un peu l'enfoncer. Bon. Ça arrive. Mais ne porte pas la main sur sa personne. Du moins, en gros, pour connaître le récit après, ne le tue pas. Mais il va quand même tomber malade. Donc, il lui reste plus grand-chose à ce pauvre Job. Hein. Voilà ce qu'il dit à l'accusateur. Et celui-ci, c'est-à-dire Satan, hein, bien qu'étant mal intentionné, il doute de Dieu, il a envie de pourrir la vie de Job, et il va y arriver, bien qu'étant mal intentionné à l'égard de Job, il ne peut aller au-delà de la limite que lui fixe le Créateur. Jamais il ne pourra avoir la force, le pouvoir, tout ce qu'on veut, d'aller au-delà de ce que Dieu permet. Que ça nous invite à réfléchir, parce que parfois on serait tenté, un peu comme Job, de reprocher à Dieu de nous laisser souffrir jusque-là. Certes, on souffre, mais Dieu pose des limites. Alors certes, nous ne les devinons pas, nous ne les comprenons pas. Ça, c'est notre difficulté. Et bien qu'étant déjà corrompu par le mal, je parle toujours de Satan, lui-même, quand il a, entre guillemets, permission d'aller pourrir la vie de Job, il ne peut agir au-delà des limites que Dieu a décrétées. Retenez bien cela, c'est important. Même si je ne suis pas sûr qu'au milieu de la souffrance, parfois on s'en rappellera. Mais aujourd'hui, peut-être, quand tout va bien, rappelons-nous que Dieu est souverain. Il pose toute limite à cela. Le mal ne déferle pas comme il le désire. Le mal n'est pas tout puissant sur cette terre. Satan n'a pas tout pouvoir, bien au contraire. Et on serait tenté de le croire, ou de l'imaginer. Ça nous rassurait presque, malheureusement. Ainsi, comme je viens de le dire là, nous pouvons affirmer la souveraineté de Dieu. Dieu reste, pour utiliser une autre image, le pilote de l'avion. Quand un avion se fait pirater, mauvaise image, mais importante quand même, il est rare que le pirate tue le pilote pour prendre les commandes de l'avion. Bon, à part quelques récents cas là, qui ont vraiment défrayé la chronique. La plupart des pirates autrefois détournaient les avions, les faisaient atterrir ailleurs. Ils très souvent réclamaient des rançons, etc. Quitte à tuer aussi d'ailleurs. Ce sont des monstres. Mais la logique du pirate est là. Il tente de faire du mal au sein de l'avion, mais c'est le pilote qui garde les commandes. C'est lui qui va encore amener l'avion où il faudra. Même si là, l'image a ses limites, parce que le pilote obéit aux pirates, par souci des passagers. Là où Dieu, de toute façon, n'a pas obéi à Satan. Bon. Mais Dieu, sans se compromettre, il peut se servir d'esprits rebelles, appelons-les comme ça aujourd'hui, d'esprits corrompus par le mal pour éprouver ses créatures et les amener, non pas juste les éprouver pour les éprouver, Dieu n'est pas sadique. Je me permets d'utiliser le mot parce qu'il ne l'est pas. Mais il le permet. Et il peut se servir d'esprit rebelle pour éprouver ses créatures et les amener vers l'état adulte. À produire l'endurance en chacune d'elles afin d'être plein de force. Qui dit ça d'ailleurs? Que Dieu parfois permet que nous soyons éprouvés pour nous faire parvenir à l'état adulte, produire en nous l'endurance et d'être plein de force. Jacques, non, c'est plus Jacques. Premier chapitre et dans les premiers versets, la première dizaine, je crois. Et c'est ce qu'il fait pour Job. Je reste sur les exemples que nous avons pris au début, hein, on pourrait les regarder ailleurs. Les exemples existent, et même chez nous, c'est le cas. Écoutez d'ailleurs, plus loin dans le livre de Job, je crois que vous allez avoir le texte là, ce qui est dit. Job répondit alors à l'Éternel, vous avez la suite, « Je sais que tu peux tout et que rien ne peut faire obstacle à tes projets. » Ça, c'est Job qui s'adresse à Dieu. « Qui ose, disais-tu, obscurcir mes desseins par des discours sans connaissance ?» Oui, là, tout d'un coup, Job a fait un pas de géant. « Oui, j'ai parlé sans les comprendre de choses merveilleuses qui me dépassent, que je ne connais pas. Écoute, disais-tu, c'est moi qui parlerai. Je vais te poser des questions et tu m'enseigneras. Jusqu'à présent, et ça c'est la phrase qu'on connaît bien, jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi. » Il vous est arrivé d'entendre parler de quelqu'un que vous n'avez jamais vu. Je vous ai parlé de Paul Ricoeur, vous ne l'avez jamais vu. Bon, on ne le verra jamais, hein, c'est fini. Mais j'ai parlé aussi d'à côté d'un autre personnage qui avait connu Paul Ricoeur, notre cher président. On en a tous entendu parler, on en entend souvent parler. Mais qui le connaît? Qui l'a vu? Qui a déjà eu le temps de parler directement avec lui? Ben, je crois personne d'entre nous. Je ne connais pas notre président. Mais je finis quand même la lecture de Job, mais pour mettre en contraste, il dit bien, jusqu'à présent j'avais seulement entendu parler de toi, mais maintenant, je pense que vous connaissez très bien la suite, mes yeux t'ont vu, mon œil te voit, dans une autre traduction qu'on connaît mieux. Job, au sein de l'épreuve, a fait un pas de géant. Vous l'estimez comme vous voulez, ce pas. Mais pour moi, il y a un pas de géant dans sa relation à Dieu. C'était un homme droit et juste, ça ne changeait rien. C'est dit par Dieu au tout début. Mais pour autant, dans tout ce récit, 42 chapitres qu'il nous faut lire là, pour en arriver à entendre cela, il a avancé dans sa relation à Dieu. Il le connaît davantage, il le connaît mieux. Et là où il y avait des prétentions chez lui, tout d'un coup, est venue enfin l'humilité. Oui, lui, l'homme juste, a trouvé dans l'épreuve l'humilité. S'est rendu compte qu'il ne connaissait que très partiellement son Créateur et Souverain. Quand je dis partiellement, ce n'est pas tout à fait juste. Il le connaissait déjà bien. Mais là, il le connaît tellement mieux dans ce qu'il vient de dire ici en quelques mots. Et désormais, il s'est approché de Dieu, ou Dieu s'est approché de lui, au point d'avoir part à une plus grande intimité avec son Seigneur et Maître. J'ai rebondi un peu sur Job, faisant très vite, très court. Je ne rends pas grâce à tout ce qu'il nous faudrait dire, mais si Dieu, comme nous avons pu le voir, n'a aucune relation de connivence, aucune complicité avec le mal, alors se pose une nouvelle question. Qu'est-ce que le mal? Dieu n'a aucune part, il ne l'a pas créé, il ne l'a pas voulu. Mais il permet qu'il continue de sévir aujourd'hui. Qu'est-ce que le mal tel que la Bible en parle, tel qu'elle le dénonce? Parce qu'elle ne le félicite jamais, hein, jamais elle ne le met en lumière pour dire à quel point le mal est sympa. Elle ne fait que le dénoncer. Le mal, selon la révélation des Écritures, n'est pas seulement l'absence de bien, ça ce serait une définition bien ténue qui ne correspond pas à ce que dit la Bible. Un peu dans l'esprit dualiste, il y a ou le mal ou le bien, et puis quelque part... L'un fonctionne avec l'autre, quoi. Le mal n'est pas seulement l'absence de bien, il n'est pas seulement une privation, une négation du bien. Ce n'est pas son contraire. Le mal n'a pas de raison d'être. Je le répète, hein, mais le mal n'est pas seulement une privation, une négation du bien ou du bon que Dieu, lui, a créé initialement. Il a créé toute chose, tout était bon. Le mal n'y était pas. Après, ça laisse encore une question. Hein. Je ne sais pas si vous la percevez là, mais quand nous regardons aux Écritures, et notamment dès le récit de la Genèse, le mal nous apparaît, je vous l'ai mis là, comme une intrusion. Il surgit de nulle part, presque. On ne sait pas d'où il vient, si je regarde à ce récit-là. Le mal est-il une présence non désirée dans la création? Et quand je dis non désirée, ce n'est pas de notre part, c'est de la part de Dieu. Voilà un peu le point de vue biblique sur le mal. C'est très loin de ce que je viens de dire tout à l'heure et qui serait peut-être la définition trop hâtive, trop rapide et trop simpliste. Ce n'est pas juste l'absence de bien, c'est une présence non désirée dans la création. Et il est plus encore perversion du bien. Ce n'est pas son espèce de contraire qui donne un équilibre. C'est le bien qui est corrompu et totalement corrompu. Voilà ce qu'est le mal. Pour essayer de résumer alors, très simplement, je l'espère, la perspective biblique, la Bible, les Écritures, ce que Dieu nous a donné, souligne que le bien est premier, a toujours été là depuis l'origine. Hop, je crois d'ailleurs que j'ai, juste pour le souligner, le bien est premier. Et c'est d'ailleurs ce refrain qu'on entend de manière régulière dans le récit de Genèse chapitre 1. Vous vous rappelez? Vers la fin de chaque jour, là, il y a comme un refrain qui revient à chaque fois, avec notamment cette petite phrase qui dit « Dieu vit que c'était bon ». Il n'y a pas marqué « Dieu vit que c'était bien et mal ». C'est toujours bon ce que Dieu a créé, voulu et a fait, était parfaitement bon. Je sais que ça peut paraître pour certains trop absolu, mais Dieu est absolu. Ce qu'il fait est absolument dans ce qu'il fait. Enfin, je ne le dis pas très bien, mais quand il fait quelque chose, il le sait absolument. Ce n'est pas comme nous qui essayons de bien faire, arrivons à faire plutôt bien, voire même très bien, mais nous n'arrivons pas à être parfaits. Même si peut-être un jour, j'ai déjà vu une fois, pas pour moi, hein, dans une classe, quand je devais être au lycée, un élève qui a eu plus que 20 sur 20. Ouais, bon, c'était une tronche. Hein. En philo en plus. Hein. Ça épate, surtout quand nous, on est sous la moyenne, on se dit... Oh. Mais même ça, hein, je crois que c'était 22 ou 24 sur 20, c'était pour vraiment montrer à quel point l'élève avait été au-delà des espérances du prof. Hein. Même ça, ça n'est pas de la perfection, même si c'est excellent. Mais tout a été créé bon, tout a été créé parfaitement bon. Parce que Dieu est bon et parfaitement bon, il ne peut pas faire les choses autrement, très simplement. Nous ne sommes pas parfaitement bons, donc nous faisons des choses pas parfaitement bonnes. Mais on essaye de faire bien. C'est Paul d'ailleurs qui le dit parfois ailleurs. Et c'est là une particularité, vraiment une particularité de la foi chrétienne. Il est impensable à l'homme, en dehors de la révélation que Dieu nous donne, d'imaginer un monde sans mal. Regardez alors, aux religions anciennes, celles qui ont été justement rejetées depuis bien longtemps, mais qui côtoyaient Moïse et tout ça. Le mal était amené par les divinités. Et même aujourd'hui, dans les religions qui demeurent hors chrétienté, le mal est quelque chose de nécessaire. Alors bien sûr, comme nous l'avions évoqué il y a déjà un moment, dans une autre fois, dans un de ces autres rendez-vous de la foi en question, ces autres religions ne sont pas révélées. Elles sont des créations humaines. Et l'homme ne compose qu'avec ce qu'il sait et voit et discerne mal à cause du péché qu'il a. Donc toute religion en dehors de Dieu, ou toute pensée religieuse ou forme de foi, compose avec le mal. Mais la perspective biblique sur ce point-là est totalement originale. Parce qu'elle est vraie, elle est unique, et elle ne peut pas venir de nous, nous ne serions incapables de dire cela. Et même parfois, je pense, dans notre foi aujourd'hui, nous avons du mal encore à parfaitement accepter cela, en raison de la souffrance. Que nous connaissons. On a du mal encore à l'accepter totalement. Oui, la perspective biblique pointe sur le fait original que le mal intervient comme une corruption du bien, de tout ce qui a été créé. De plus, les Écritures appuient avec force que le mal ne peut et ne doit en aucun cas être justifié. Comme d'ailleurs l'évoque l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, chapitre 3, verset 8, je crois. Voilà, vous l'avez là. Je vous lis le verset, écoutez bien. « Et pourquoi ne pas aller jusqu'à dire « faisons le mal pour qu'en sorte le bien ?» Attention, quand il dit ça, il ironise, hein. Ne le prenez pas à la lettre. C'est vrai que je n'ai pas tout le début, mais... « Faisons le mal pour qu'en sorte le bien ?» sous forme d'interrogation. « Certains, du reste, nous calomnient en prétendant que... c'est là ce que nous enseignons. » Donc on entend bien, Paul n'enseigne surtout pas cela. Ces gens-là méritent bien d'être condamnés. La condamnation chez Paul ici est claire et limpide de la part de cet apôtre. La justice de Dieu réprouve intégralement tout mal, même le plus infime. Et aucun mal ne peut être justifié. Même dans la plus belle des entreprises humaines. On va créer un monde meilleur. Mais pour cela, quand vous entendez « mais pour cela », il va falloir que, très souvent là, l'homme, dans ses projets, même les meilleurs qu'ils soient, même quand il s'efforce de faire le bien pour le plus grand nombre, si ce n'est tous, il va malheureusement quand même échouer quelque part. Et c'est à cela d'ailleurs que nous pouvons voir à quel point la sagesse des hommes se trouve irrémédiablement séparée de la gloire de Dieu et de sa sagesse qui vient d'en haut. Car notre sagesse joue malheureusement régulièrement de compromission avec le mal, ne serait-ce que même d'un petit mal pour un grand bien. Pour reprendre ces expressions familières qu'on peut entendre parfois de ci, de là. Prenez même les grands hommes de ce monde, récents, Gandhi. Je ne touche pas tout de suite aux gens de la foi chrétienne, mais Gandhi, un homme fabuleux. Mais il n'a pas été parfait. Il y a eu quelques petits défauts chez lui. Prenez un autre cas dont on va célébrer, alors je crois que c'est les 50 ans de sa mort, hein, si je ne dis pas de bêtises. Vous voyez très certainement de qui je vais parler. Martin Luther King. Un grand homme, un homme que j'aime à comprendre dans ce qu'il a essayé de faire, dans la manière dont il a voulu lutter dans son propre pays pour rétablir un peu plus d'égalité. Mais il n'était pas totalement parfait. En fonction des médias, soit on s'acharne sur ses défauts, soit on essaie de mettre en lumière que ses qualités. Et parfois, on en oublie que peut-être le personnage était un tout petit peu plus complexe. Et voilà, même un homme comme lui, un pasteur baptiste, voilà, les pasteurs baptistes ne sont pas aussi parfaits, hein, ne vous attendez pas à cela. Avec moi, je pense que vous le savez déjà, mais... Mais voilà, l'homme, dans sa sagesse, ne peut arriver parfaitement à cela. Mais pour autant, les Écritures n'apportent pas toute réponse à propos du mal. J'ai essayé de vous apporter déjà des éléments de réponse pour souligner la souveraineté de Dieu. Mais aux questions que nous pourrions nous poser au sujet du mal, notamment quant à son origine, la Bible nous offre aucune réponse au sujet de l'origine du mal. Allez chercher bibliquement d'où vient le mal, pourquoi il existe, comment il est arrivé, il n'y a rien, strictement rien. Et c'est gênant, parce qu'on aimerait savoir. Peut-être pas tous, mais il y en a plusieurs qui aimeraient savoir. Et certains s'acharnent pour essayer de trouver. Le problème, c'est quand il n'y a pas l'élément de réponse, en tout cas que Dieu ne nous a pas donné les éléments ou l'élément de réponse, on va aller chercher ailleurs. Et si on va chercher ailleurs, il y a de bonnes chances, si ce n'est à 100%, de se planter. Et c'est ce qui arrive parfois. La question que je reprends là, mais d'où vient-il, comment est-il apparu? Rien. Nous n'avons rien, aucun élément, rien de rien. La Bible, la révélation, les Écritures, peu importe la manière dont vous les appelez, nous donnent certes des éléments quant à son irruption dans la création, à ses conséquences pour nous, créatures aimées de Dieu et créées à l'origine parfaitement bonnes, même si voilà, notre nature a été corrompue par le péché. Mais rien de plus, en gros, hein, pour le faire en résumé. L'homme, quant à cette question de l'origine du mal, d'où vient-il, pourquoi existe-t-il, etc., on aimerait le savoir. L'homme s'est aventuré, parfois, à le chercher, même des hommes de Dieu, des théologiens. On a envie, parfois, on est trop curieux. L'homme s'est aventuré à chercher, à découvrir cette origine, à échafauder des hypothèses et théoriser sur ce sujet, mais chacune de ces tentatives fut un échec, car elles furent surtout l'occasion de commencer à faire quelque chose de pire encore. À vouloir découvrir la vérité, comme nous n'avons pas accès à cette vérité, on va aller justifier le mal en le faisant. En tout cas, les grands penseurs qui parfois ont poussé la question jusque-là, ont commencé à justifier le mal en le faisant, en cherchant à démontrer la raison de son existence. Parce que c'est ce qu'on fait quand on pousse la question, d'où vient-il? On veut connaître son existence, pourquoi il existe, donc la raison. Et on commence malheureusement à le justifier. Et c'est sûrement pour cela, je vous propose cette hypothèse, c'est sûrement pour cela que la Bible se fait très discrète à ce sujet-là. Non pas qu'elle désire nous cacher la vérité, Mais plus simplement, il nous faut reconnaître que nous, hommes, notre esprit humain, avec ses propres limites et la corruption en plus qui continue de voiler en partie ce qui est vrai aux yeux de Dieu, nous empêche, nous, et nous laisse incapables de saisir le mystère que demeure le mal, notamment quant à son origine, son existence, etc. Et juste, oui, je vous l'ai mise la citation, ce cher monsieur que plusieurs d'entre nous a eu l'occasion un petit peu de connaître en tout début d'année lors de notre dernier week-end d'église, Henri Blocher, le résume très bien. Alors lui, il connaît à peu près tous les penseurs qui ont cherché à théoriser, etc., et a vu tous les défauts, je l'ai appris un peu avec lui, mais et il le dit ainsi, comprendre le mal, chercher à le connaître, à en connaître ses origines, son existence, etc., toutes ces questions auxquelles la Bible ne donne rien. Comprendre le mal serait comprendre que le mal n'est pas mauvais. Et il a raison. Quand nous nous efforçons de poursuivre sur cette voie-là, nous en arrivons malheureusement à cette conclusion-là. Parce qu'on cherche une raison de son existence, on a besoin de lui. Et quelque part, on tombe un peu dans ce que j'avais tout à l'heure qualifié très grossièrement de dualisme. Comme je viens de vous le dire, la Bible ne cherche pas à nous apporter toute réponse aux questions que pose l'existence du mal dans ce monde créé. Et m'arrêter ici, serait certainement sage de dire « Ah, ben voilà, là, on ne peut pas aller plus loin, on s'arrête, stop ». Conclusion, c'est fini. Ça resterait un petit peu incomplet. Parce qu'il y a peut-être au moins encore une question qui demeure pour nous. Une question peut-être même plus importante dans notre vie de tous les jours. Pourquoi Dieu permet-il que le mal blesse ceux qui ne sont pas responsables? Ou ceux qui croient en lui? Pourquoi nous venons encore à souffrir? Pourquoi nous sommes, nous, encore persécutés, peut-être? Alors, nous sommes peut-être moins ici, en France, heureusement pour nous, d'une certaine manière, mais beaucoup de frères et sœurs connaissent, eux, des persécutions encore terribles, telles que nous, d'ailleurs, nous le découvrons là aussi, pour ceux qui nous ont précédés. Pourquoi le mal continue de s'acharner sur ceux qui, quelque part, ne sont rien fautifs, y compris ceux qui lui appartiennent? Tout à l'heure, j'ai commencé avec deux textes, Saül, phrase un peu choquante, là, à première vue, et puis surtout Job. Le livre de Job témoigne tout au long de ses chapitres de cette réalité. Job proclame qu'il n'a rien fait qui vaille ce qu'il vit là. Or ses amis au début le consolent en disant « Ouais, on sait que tu souffres, etc. » Et puis à la fin, il l'enfonce. Hein. Alors là, gaiement quoi. Il dit « Non mais t'as fait un truc, c'est sûr, c'est obligé. Avoue quoi, lâche le morceau, arrête. » Bon, ça ce sont ses amis. Mais Job continue de clamer son innocence. Et Dieu dit de lui qu'il est juste. Et même le récit avant que l'histoire ne commence à propos de Job conclut déjà ou apporte une forme de conclusion en disant « Job ne commettra pas de faute là-dedans ». Alors, tout est spoilé hein, dans Job, c'est ça qui est pénible, hein. On sait comment ça va finir en gros, même si on n'a pas tous les détails. Après, il faut aller lire. Mais le livre de Job témoigne de cela. Il n'a de cesse, lui, de demander des explications. Et quelle est la réponse de Dieu quant à la souffrance de Job? Là, je vous pose la question. Job n'arrête pas de dire « je souffre, mais je ne comprends pas pourquoi », en gros. Hein. Je ne vois en quoi j'ai fait de mal qui mérite ce que je vis là. Je n'ai rien fait, je suis innocent. Je demande à être détaché de ce qui m'accuse là, etc. Bon, bref, je le dis mal, mais voyez l'idée. Job n'a cesse de demander des explications. Il va un peu fort d'ailleurs. Hein. Dieu va le reprendre un peu là-dessus. Mais il ne pêche pas pour ça. C'est sa souffrance qui l'amène à aller si loin. Mais quelle est la réponse de Dieu quant à la souffrance de Job? Job demande « Pourquoi je souffre? Qu'on me le montre. Je n'ai rien fait qui vaille ça. » Qu'est-ce que Dieu lui dit? Allez-y. À votre avis, quelle est la réponse de Dieu à cela? Elle est très bizarre. Je vous aide un peu là. Il va déjà lui parler de tout ce qu'il a fait. Il va même lui parler du crocodile et de l'hippopotame, très certainement. Ouais. Si vous allez voir un psy ou un pasteur, j'espère que le pasteur ne va pas vous répondre comme ça. « T'as déjà vu le crocodile ?» Non, mais ça ne m'aide pas, la pasteur. Bon, bref, j'exagère. Hein. Je parodie même. Mais Dieu ne lui donne pas une explication directe face à sa souffrance. Il ne lui dit pas « Tu souffres parce que… » Il lui dit « Attends, petit bonhomme. » Pas tout à fait dans ces mots-là, mais ça revient un peu à ça. Il lui dit « Attends. Tu Tu entends la manière dont, quelque part, tu t'exprimes vis-à-vis de moi. Te rappelles-tu qui je suis? Vois ce que je suis. Et tu peux poser cette question, crois-tu? En fait, je ne vais pas être très juste là, mais Dieu répond presque comme un homme politique. On lui pose une question et il passe à côté. Attention, j'ai dit presque comme un homme politique, parce que l'homme politique se devrait de répondre aux questions, sauf que ça le dérange. Donc il passe à côté. Là, c'est tout le contraire, presque. Job a envie de savoir, mais il ne peut comprendre ce qui pourrait lui être dit dans la réponse. Donc Dieu lui donne explication et lui montre à quel point il ne peut pas lui donner cette réponse-là parce que ça lui échapperait. Donc Dieu lui rappelle plus encore ce qui est important pour lui. « Je suis celui-là ». D'où ce qu'on a entendu tout à l'heure, Job qui après est heureux, pardon, heureux, oui, d'avoir vu Dieu, entre guillemets, de s'être approché de Dieu plus encore, de le connaître davantage. Et dans cette situation, face à la souffrance, Job n'est pas le seul. Dans la Bible, il y a maintes textes qui évoquent ce genre de situation. Différemment, plus courtement, parce que Job c'est tout un livre. Mais prenez les psalmistes, les différents auteurs des psaumes. Souvent clament leur souffrance, sont victimes, je reprends le genre d'expression qu'ils ont, mais les flèches de leurs ennemis, ces propos médisants qui viennent de leurs détracteurs. Ils souffrent, ils le disent. Très souvent à côté, il y a l'espérance, d'ailleurs, dans ces psaumes-là. Tout comme aussi, chez Job, il y a l'espérance. Il espère en Dieu, même si ça va très fort dans son cri vers Dieu. Je reprends un des auteurs que nous avons vu tout à l'heure, Habacuc. On le qualifie de petit prophète parce que son livre est tout petit. Mais c'est un prophète de Dieu, avant tout. Ou le prophète Habacuc qui, comme nous l'avions vu tout à l'heure, affirme sans détour que Dieu ne supporte pas le mal. On l'avait vu, il le disait très bien en plus. Dit à côté de cette affirmation, ceci. Alors attendez, je suis dessus. Voilà, bon, c'est juste la liste. Écoutez-le alors, parce que je ne l'ai pas là. Pourquoi me fais-tu voir de telles injustices? On a l'impression d'entendre presque Job, mais ce n'est pas dirigé vers lui, c'est plus ce qu'il voit autour. Pourquoi me fais-tu voir de telles injustices? Comment peux-tu te contenter d'observer les méfaits qui se commettent? Habacuc sait que Dieu est juste et puis il lui dit, mais tu vois cela? Comment tu peux? Et il dit encore, là on est toujours Habacuc 1, les versets 3 et 4, là, « Je ne vois devant moi que ravages et violences, il y a des querelles et des conflits surgissent. À cause de cela, on ne respecte plus la loi et le droit ne triomphe pas, car les méchants empêchent les justes d'agir, les jugements qui sont rendus sont corrompus. » Un constat amer du mal qui touche l'humanité. Et là, nous entendons Habacuc, presque un peu comme on l'entendrait chez Job, mais lui, il élargit ce regard, il ne regarde pas à lui. Alors, de continuer un peu avec le questionnement que nous avons là. Pourquoi Dieu permet-il cela? Qu'un Job, qu'un Habacuc, que le psalmiste ou les psalmistes viennent à souffrir, que nous venions nous aussi à souffrir. Les Écritures, par ces diverses situations, soulignent que la foi des croyants, des disciples, n'empêche pas qu'il demeure solidaire de l'ensemble de l'humanité. Vous pouvez être un homme de foi juste comme Job. Et d'ailleurs, heureusement que Job était une espèce d'élite des justes parmi les justes. Un homme vraiment qui serait certainement pour nous s'il était là un modèle. Et lui souffre. Ça aurait été un chrétien de bas étage. Excusez-moi, je le pense pas, mais je joue d'une expression un peu débile. Un chrétien de bas étage qui a encore beaucoup de chemin à faire. On pourrait se dire, oui, lui, c'est certain, il a péché, voilà, il est tombé dedans, quoi. Mais là, Dieu permet que ce soit un Job qui soit éprouvé. Un homme sur qui on ne s'attend pas à ce que Dieu enlève sa bénédiction, hein, pour le dire comme ça, très naïvement. Oui, les Écritures soulignent que nous sommes solidaires de cette humanité. Ces gens qui ne connaissent pas Dieu sont, tout comme nous d'ailleurs, des êtres pécheurs. Et tant qu'ils vivent sur cette terre, ils subissent, nous aussi d'ailleurs, plus encore même, subissent comme chacun les conséquences de l'irruption du mal et du péché dans le monde. Imaginez que Dieu n'ait pas voulu fonctionner comme ça. Nous lui appartenons, ça y est, nous n'avons plus le droit et part à la souffrance, bien que nous continuions de vivre aujourd'hui. Qu'en serait-il de la foi? Qu'en serait-il de venir à Dieu par la foi? Ce serait trop manichéen. Il y aurait ceux qui croient en Dieu, ont la vie belle, rose, ils seraient bénis, ils seraient riches, bon, je ne sais pas ce que vous voulez. À vous de voir, vous faites votre liste. Hein. Et puis à côté, il y aurait ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui vivent coup-ci, coup-ça, ça n'empêche pas que certains le soient, etc. Mais assurément, il y aurait de la souffrance. Et nous, jamais on ne souffrirait, aujourd'hui. On ne viendrait pas vers Dieu avec un élan de foi. On viendrait vers Dieu avec un élan très intéressé. Ah, moi, je veux ça. Comment ça marche? On signe. Ça n'est pas cette relation que Dieu veut avec nous. Donc effectivement, pour aujourd'hui, comme le mal est encore là, nous sommes solidaires. Mais la bonne nouvelle, alors, parce que là, jusqu'ici, c'était un peu sombre, hein, j'avoue. La bonne nouvelle, c'est que Dieu combat le mal. Et il le fait depuis que Adam a chuté. Ça a commencé là. Dieu combat le mal en avertissant les hommes de ses pièges. Depuis le jour, d'ailleurs, où voilà, il s'est adressé à Ève et Adam, Genèse chapitre 3, avant de les chasser loin de sa présence. Ces paroles, qu'on appelle paroles de malédiction parfois, au serpent, à l'homme et à la femme, ne sont pas Dieu qui leur dit « Voilà, maintenant, je vous aime plus, voilà ce qui va vous arriver, je le souhaite pour vous. » Non. Dieu dit « Voilà les conséquences du mal qui est entré. Voilà ce que cela va engendrer chez vous. » L'homme va devoir non pas bosser, mais bosser, ça va lui être dur et pénible. Parce que croyez-moi, avant, quand tout était bon, on devait bosser. Hein. Ne vous attendez pas à ce que là-haut, plus tard, on soit comme ça. Hein. Ah, je ne sais pas ce qui nous attend, mais Dieu nous invitera toujours à le servir, d'une certaine manière. Mais plus encore, effectivement, Dieu, dès qu'il ne peut que se séparer de ses créatures parce qu'elles sont corrompues, les avertit, leur fait entendre à quel point le mal va maintenant s'abattre sur eux. Et voilà les conséquences qu'ils vont avoir. Et on l'entend déjà par quelques mesures données. Voilà un premier élément de cette bonne nouvelle. Notre Créateur aussi nous aide et nous soutient en limitant la propagation du mal. Il l'a fait, il l'a commencé notamment en donnant des lois, en enseignant. Une loi qui a d'ailleurs pour vertu de nous faire connaître le péché. On l'entend chez Paul notamment, Romains 3, verset 20, il dit que la loi en gros est là pour faire connaître le péché. Elle n'est pas là pour nous rendre parfaits, elle est là juste pour dénoncer le péché, plus encore. Mais surtout, c'est ce que vous voyez tout à la fin, je pense que vous avez peut-être déjà de l'avance, mais surtout Dieu retient plus encore le mal depuis qu'il s'est fait homme, dans la personne du Fils Jésus. Et il a vaincu ce mal à la croix. Et il l'a proclamé et manifesté par sa résurrection. Et depuis lors, Satan, comme le mal, demeure enchaîné, ne dispose plus d'une grande liberté. Je n'ai pas dit que ça y est, c'en était fini. Hein. Il ne dispose plus d'une grande liberté, bien qu'il puisse encore nous faire souffrir pour un peu de temps. Je reprends plus ou moins l'expression que notre frère, la semaine dernière, avait repris aussi de temps à autre. Aussi, même si la question de l'existence du mal demeure un mystère pour nous, je vous ai dit, il y a des éléments sur lesquels nous n'aurons jamais réponse. Peut-être, à son retour, on pourra venir avec la question « Et au fait, maintenant qu'il n'est plus, tu peux nous dire d'où il vient ?» Ce qui ne sera plus. Hein. Et peut-être là, on aura le droit à la réponse. Et peut-être on aura la sagesse de pouvoir l'entendre et la comprendre. Mais aujourd'hui, non. Si la question du mal, de l'existence du mal, demeure mystérieuse pour nous, Dieu promet un soutien particulier aux victimes de ces injustices. Et les psaumes sont là d'ailleurs pour nous comme une ressource sans fin pour puiser à ces promesses de ce soutien de Dieu dans la souffrance. Quelques-unes quand même, je vous en donne une première et puis je vous montre les deux autres. Psaume 94, versets 16 et 17 qui dit « Qui m'assistera contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal ?» La question du psalmiste. « Ah, si l'Éternel ne m'avait pas secouru, je serais bien vite allé rejoindre la demeure du silence. » Là, le psalmiste reconnaît d'où est venu le secours. Je continue, vous avez les deux autres. Psaume 9, verset 17. L'Éternel a montré qui il était. On a l'impression d'entendre presque Job parler, mais ce n'est pas lui. Hein. Il fait justice et il prend le méchant à son propre filet. Autre verset, on pourrait là aussi faire une très très longue liste. Psaume 109, verset 31. Car il se tient aux côtés du pauvre pour le délivrer de ceux qui l'assignent en justice. Là aussi, Dieu assise soutien, celui qui va être opprimé, qui va être amené à souffrir. Il n'a pas dit « il va le délivrer hein. ». Enfin, si, il a dit qu'il va le délivrer, pardonnez-moi, c'est moi qui dis une bêtise là. Oui, Dieu, pour le résumer, demeure pour nous un appui sûr face à la souffrance qu'engendre aujourd'hui encore le mal et le péché dans ce monde déchu. Mais plus encore, à chaque fois je monte d'un cran, hein, plus encore il nous a offert la certitude qu'un jour, le mal au sein de sa création sera annihilé. Et je dis bien annihilé, c'est pas enfermé à double tour, cadenassé, non, c'est annihilé. Il ne sera plus. Le mal n'existera plus. Il disparaîtra à jamais. Je ne sais pas comment le dire, mais entendez-le bien. Et notamment, là aussi, il y a quelques passages moins nombreux, mais qui le soutiennent avec force. Alors, j'espère que vous arrivez à le lire. Sûrement, là, c'est un peu petit, donc je le dis ici. Apocalypse, chapitre 21, verset 4, à propos de Dieu, où il est dit « Il essuiera toute larme de leurs yeux ». La mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Car face au mystère qui demeure quant à l'irruption du mal dans la création, Dieu nous invite à nous tourner vers un mystère encore plus grand. Le mystère du mal, quelques questions dont nous n'avons pas réponse. Mais il y a un mystère qui nous dépasse. C'est le mystère de son amour incomparable. Franchement, qui a percé le mystère de l'amour de Dieu pour nous? C'est plus mystérieux encore. Hein, mais mystérieux dans un sens positif. On aimerait en savoir plus. Je pense là, on est sûr qu'on en saura plus. Mais je pense que c'est en vivant avec lui à ses côtés qu'on avance aussi dans cet amour et on le comprend mieux. Oui, un amour mystérieux, mais qui l'a amené à offrir en sacrifice ce qu'il avait de plus précieux, lui, Christ, en allant volontairement à la croix pour porter le poids du péché sur lui, au point qu'il eut cette phrase d'ailleurs très étonnante et à certains titres mystérieuse. Vous ne la verrez pas, là je n'ai pas pensé à l'afficher. Dans l'évangile de Matthieu, alors que Jésus est à la croix, rappelez-vous ce qu'il dit. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani ?» Ce qui veut dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est une phrase qui n'est pas toujours facile à comprendre dans ce que Jésus veut dire. On sait qu'il emprunte à un psaume en plus. Mais ce cri de détresse lié à la souffrance du sentiment d'abandon du Père, car il venait alors à porter l'immense fardeau de nos fautes à notre place, témoigne, en tout cas c'est comme ça que je le comprends premièrement, témoigne de l'étendue de son amour pour nous. Un amour qui surpasse notre souffrance, car il a souffert pour nous, afin que, un jour, nous n'ayons plus à souffrir. Je m'arrête là-dessus. Prenons peut-être juste le temps de nous incliner un instant. Seigneur, après avoir été aussi long, je ne peux que être court dans ce que je veux te dire. Oui, merci Seigneur pour ton immense amour. Cet amour qui surpasse mon entendement, notre entendement. De savoir que tu as choisi de venir, de te faire homme, afin de souffrir pour nous, de mourir pour nous. M'aide à saisir à quel point tu m'aimes. À quel point tu nous aimes, nous ton peuple racheté. Aussi, Seigneur, sois béni à jamais. Amen. Voilà, désolé, j'ai vu que j'ai pris du temps. Je sais que c'était un peu long, mais je vais laisser la place à nos frères. Je ne sais pas si c'est déjà Gabriel. Okay.